Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les conflits avec les collègues seraient, avec l'épuisement professionnel, la première source de souffrance au travail, selon une enquête récemment publiée par le journal Les Échos. 8 personnes sur 10 auraient même déjà pleuré sur le lieu de travail, et la plupart du temps à cause de mauvaises relations avec leurs collègues ou leurs patrons, selon cette fois le site de recherche d'emploi Monster.fr. Tous dans le même bateau, a-t-on envie de dire. Alors à propos des conflits, plutôt que de faire comme s'ils n'existaient pas, pourquoi ne pas y faire face, les regarder dans les yeux et apprendre à les gérer et les traverser? Ce matin, je vous propose un petit guide de gestion des conflits professionnels. Mieux vivre son job, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme guide aujourd'hui Olivier Lasserre. Vous êtes coach, formateur et facilitateur, ça tombe bien, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Alors on a mis un peu le paquet à l'occasion de ce confinement sur les émissions Mieux vivre son job, et puis vous étiez prévu. Je me suis dit qu'il fallait continuer parce que la période peut-être favorise aussi les conflits professionnels dans le monde de l'entreprise. Tiens, ça sera ma première question. On constatait mardi à l'occasion d'une émission sur un parcours des Cotopaïs pour les divorcés que le nombre de divorces, hélas, a augmenté pendant les temps de confinement. Vous, votre expérience, c'est que la situation favorise les conflits professionnels ?
Alors malheureusement, oui. Alors mon expérience qui est limitée, on va dire, à mon activité, hein, on n'en fait pas une généralité. Ce que je vois dans les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui souffrent du manque de proximité. Donc le télétravail fait qu'on n'a plus l'occasion de se croiser dans ces moments informels, de prendre le café, de discuter entre deux réunions, où là on se dit les choses en vérité, en profondeur, où on ose s'ouvrir. Tout ça, ça y est plus. Donc, ce qui fait que les incompréhensions sont beaucoup plus généralisées. Ça, c'est un premier point.
C'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'il faut se parler et aller se voir plutôt que de s'envoyer des mails.
Oui, c'est la base, évidemment. Ah oui, la communication informelle dans le monde professionnel, c'est la clé pour pouvoir bien travailler ensemble. Les messages les plus importants, les décisions, passent par ces moments informels, souvent.
Alors, on va parler donc de conflits. Il y a une première chose qu'il faut se dire. Ah non, alors avant toute chose, on va vous présenter un tout petit peu plus. Vous avez choisi le nom de votre cabinet, coaching, facilitation, formation. Là, j'ai décidé de m'arrêter un petit peu parce qu'il m'a intrigué. Vert girafe. Alors, je me dis qu'avec les coachs, il y a toujours une raison à tout. Ou alors, ils en trouvent toujours une. Pourquoi une girafe et pourquoi vert, Olivier Lasserre ?
Alors, quand j'ai cherché le nom de la société, j'ai d'abord trouvé plein de noms intelligents, beaux. Et puis, je regardais sur l'INPI, là où il y a la classification, et voir si les noms étaient pris ou pas. Ils étaient tous pris. Donc, je me suis dit, Olivier, t'as plus 20 ans, lâche-toi et fais-toi plaisir. J'ai écouté mon intuition et Vert Girafe est sorti. Maintenant, j'étais bien embêté. En effet, il fallait que je trouve du sens à ça. Aujourd'hui, je l'ai trouvé, ce sens, bien sûr. Alors la girafe tout d'abord, cet animal, vous le voyez, il voit au loin avec ce grand cou. Et dans cet exercice de coaching, c'est accompagner les personnes à prendre du recul, de la hauteur, pour s'observer eux-mêmes et observer leurs relations professionnelles. Ensuite, la girafe, c'est le symbole de la communication non violente, cette technique, cette façon de faire, cette approche.
Pourquoi c'est le symbole de la communication non violente ?
Parce que c'est le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur. Vous voyez, il faut alimenter le cerveau là-haut et envoyer du sang tout en haut. Et donc, c'est le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur. Donc, c'est le symbole des émotions, des sentiments, on va dire. Enfin, la girafe, vous savez, lorsque vous avez des périodes de sécheresse en Afrique, elle a cette capacité, avec ce long cou, à aller chercher des ressources rares qui sont cachées en haut des arbres pour pouvoir donc se nourrir. Et dans ce rôle d'accompagnement des personnes en tant que coach, c'est de permettre aux gens d'aller justement découvrir et déguster des ressources inexploitées au fond d'eux-mêmes. Donc ça parle de ça. Enfin, la girafe, pour conclure, vous voyez, on en sort des choses sur la girafe.
Fort, hein, vous êtes fort, j'avais demandé pourquoi le vert, mais vous en avez encore une sous la
mais
main.
Oui, parce que la girafe, en fait, c'est un animal qui vit en collectivité, qui vit pour pouvoir se protéger, qui vit ensemble, comme les équipes. Et elle n'a pas peur d'affronter des bêtes comme les lions. Vous pouvez voir sur YouTube différentes vidéos là-dessus.
Et oui, j'ai découvert ça récemment. Elle met des sacrés coups de tatane aux lions et du coup, ils s'en méfient.
Exactement.
Les girafes
exactement.
Sont aussi en haut de la pyramide. Et vert, pourquoi vert?
Alors, vert, parce que d'abord, les couleurs, pour moi, c'est important. J'aime le beau, c'est important dans ma vie. Et le vert, c'est la couleur de l'espérance, tout d'abord. Et dans notre posture d'accompagnement, c'est avoir un projet de transformation, d'évolution, soit des organisations, soit des personnes. Et le vert, ensuite, c'est la couleur de l'écologie. Et notre métier d'accompagnateur, c'est de parler de l'écologie intérieure, de l'écologie des personnes.
Eh ben, donc voilà, le décor est posé et on entend votre intention profonde. Alors avant, on parlait justement de la gestion des conflits. L'intention, elle est aussi de part et d'autre, à vous lire. Chacun, quelque part, pour sortir des conflits ou apprendre à les gérer autrement, doit se dire qu'il va falloir qu'il évolue, qu'il change, sortir de ses zones de confort, adopter des nouveaux comportements, faire des pas. Est-ce que là, ce serait quelque part le préambule en fait, au reste de l'émission ?
Vous avez raison, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous nous rendons compte que face à des situations, on réagit souvent de la même façon. On a des habitudes, on va dire, cérébrales qui font que confronté à telle personne qui me dit ce genre de choses, j'ai l'habitude d'attaquer, j'ai l'habitude de défendre. Et puis, ça le fait très bien puisque je le fais depuis toujours. Or, on se rend compte que dans certaines situations, ces comportements ne sont pas forcément adaptés et ne nous permettent pas de trouver une solution satisfaisante pour soi, pour les autres, pour l'organisation. Donc l'idée, ça va être de dire, il va falloir changer quelque chose, il va falloir faire évoluer quelque chose. Et la première chose qu'on peut bouger, c'est soi-même.
C'est parfois le plus difficile à entendre, non, j'imagine?
Ben oui, souvent on dit, c'est facile quand par exemple on réunit une équipe pour leur faire un brainstorming, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et donc le premier jet, on voit tout ce que les autres pourraient changer, des autres services, des partenaires et autres. On leur dit, bon c'est très bien, maintenant et si on parlait de vous? Et là, ça devient plus difficile. Parce que, ah ouais, non, mais c'est à moi. Eh bien oui, pour changer les autres, c'est la base de l'approche systémique aussi. Hein. C'est-à-dire que pour faire changer le système, et si moi, je proposais quelque chose de différent dans mes comportements, dans mes façons d'agir, et là, les autres vont être obligés de s'adapter à cette nouvelle façon de faire.
Alors, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur les quelques chiffres, enfin, ou réalités que je cite en introduction, et savoir un peu quelle forme ça prend, vous, dans votre métier, ce à quoi vous êtes confronté. Alors, 8 personnes sur 10 qui auraient déjà pleuré donc, sur leur lieu de travail, les conflits entre collègues qui tiennent un peu le haut du pavé, ou le haut du podium, pardon, parmi les causes de souffrance au travail. Votre expérience, c'est que tout le monde souffre à un moment ou à un autre au boulot.
Alors,
parce que vous êtes un peu le médecin, les médecins généralistes de la vie d'entreprise, vous les coachs, quelque part.
Alors, j'aurais plutôt tendance à dire pas forcément. Bien sûr, on est confronté à des personnes qui sont en souffrance, mais c'est peut-être plus nos, on va dire, les psychologues, les psychothérapeutes qui peuvent accompagner quand il y a de la souffrance. Hein. Nous, les coachs, on est plus pour accompagner par rapport à un projet, par rapport à un objectif, par rapport à un nouveau challenge, à une prise de fonction, à une difficulté, pourquoi pas, mais avec un projet derrière. Donc, moi, je suis sollicité plus pour dire on a un état des lieux qui est tel qu'il est et on a besoin de le faire évoluer, soit pour renforcer ce qu'on fait bien, pour faire face à des nouveaux challenges, des nouvelles difficultés, en effet. Mais pas forcément pour guérir, soigner et aller questionner cette souffrance.
Mais est-ce que vous diriez quand même que souvent, les conflits, puisque c'est le sujet du jour, c'est une des grandes sources de souffrance au travail ?
Alors, pour certains, oui. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. On voit des gens qui adorent le mode conflictuel. Ils s'y retrouvent bien. Maintenant, il y en a d'autres qui sont plus dans un mode, on va dire, empathique, qui privilégient la qualité de la relation, pour lesquels c'est difficile, ces relations. Et quand on voit les différences d'intérêts, les différences d'objectifs et qui ne sont pas conciliables, c'est difficile pour ces personnes. D'autant plus aujourd'hui qu'on a très peu de temps pour prendre le temps de discuter ensemble, de s'écouter. C'est surtout ça qui est difficile, je crois.
On continue un peu cette introduction. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas présenter des outils. Là, je vais vous demander aussi une illustration. Vous commencez aussi par définir ce qu'est un conflit. C'est quoi, au fait, un conflit, dites-vous. Et là-dedans, vous laissez entendre que plusieurs choses se mêlent et nos manières de fonctionner, nos réactions, un combat. Quelle définition vous donneriez? Pourquoi est-ce que c'est important à définir?
Alors parce qu'en effet, on a tous dans nos têtes différentes thématiques de conflit. Donc, il est bon de savoir de quoi l'on parle. Et donc, un conflit, ça part d'une divergence d'intérêts, d'une divergence d'objectifs, une divergence d'idées qui peuvent dégénérer parce qu'on ne peut pas s'y accorder dessus, on n'y arrive pas. Et donc, c'est entre deux personnes, voire plus. Ça parle de ça. Donc, voilà un petit peu. Et on pourrait dire, dans un conflit, il peut y avoir aussi un processus qui implique des réactions émotives. Et là, en effet, c'est un conflit qui peut dégénérer et qui peut venir, très gravement conflictuel.
Alors, est-ce que vous auriez un exemple, évidemment sans citer de nom, dans votre pratique professionnelle, et puis, on va dire, l'avant et l'après, pour nous persuader, avant qu'on présente, qu'on se plonge dans vos outils, de, se persuader que ça n'est pas un mirage et qu'on peut, en fait, arriver à traverser ou sortir grandi de conflits professionnels.
Alors, vous avez raison de dire « on peut », hein. Je veux dire, c'est pas un mirage, mais c'est pas non plus des miracles, hein. Je peux vous citer, l'an dernier, j'ai accompagné deux personnes d'une société industrielle toulousaine qui avaient vécu ensemble, l'un contre l'autre, un grave conflit. Ils étaient dans la même équipe, ils ne pouvaient plus se parler, ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Et la direction ne savait plus comment faire. Et les mettre dans une même salle, même avec des personnes hiérarchiques, ça ne marchait pas. Donc, ils ont proposé donc un coaching à chacun et ensemble. Et donc, le chemin a été d'abord de les aider à comprendre ce qui se passait en eux et d'aller explorer les émotions qu'ils avaient, qui n'étaient pas les mêmes du tout. Et une fois qu'ils ont pu comprendre ce qui se passait en eux, prendre du recul, voir comment ça les touchait et pourquoi, souvent, vous savez, on se rend compte que les comportements des personnes, c'est un peu comme la fleur du nénuphar, c'est la partie visible que l'on voit. Et puis dessous, il y a cette longue tige. En fait, c'est les émotions qui apparaissent dans un comportement, les pensées qui sont là également. Et ensuite, il y a les racines au fond de la terre, de ce nénuphar. Et ces racines, c'est nos valeurs, c'est nos besoins profonds. Et quand on les sent piétiner, quand on sent qu'ils ne sont pas nourris, c'est là où on va avoir ces pensées, ces émotions, et qui vont faire apparaître des comportements qui sont pas adaptés. Ou en tout cas, qui sont le reflet de ces conflits. Et donc, ces deux personnes ont pris le temps chacune. Alors, il a fallu, pas une séance, mais c'est en plusieurs mois, prendre le temps de s'écouter.
Séparément et ensemble, c'est ça ?
Séparément d'abord. En fait, ça, c'est la clé. Si on arrivait dans de l'émotionnel, donc on se sent quand même attaqué dans ce qui est
oui,
vraiment
dites,
important.
Vous dites souvent, en fait, il faut d'abord stabiliser les émotions.
C'est la clé.
C'est-à-dire, en fait, il faut chacun ait trouvé un espace, en fait, pour arriver à,
c'est-à-dire que
à s'exprimer, tout simplement.
Si l'émotion est aux manettes, on ne pourra pas écouter, on ne pourra pas discuter. On sera bloqué dans nos comportements. Donc, la clé pour pouvoir avancer face à une situation qui est bloquée, ça va être soi-même de reprendre, on va dire, le pouvoir avec son cerveau sur justement nos habitudes, nos automatismes qui ont fait créer cette situation, on va dire, émotionnelle. L'émotion, qu'elle soit, on va dire, d'attaque, on va dire, de colère, de lutte, hein, de fuite, on va dire, ou bien d'inhibition, on y reviendra plus dans le détail après, fait en sorte que je n'ai plus la capacité à donner à mon intelligence, à mon néocortex de prendre le dessus et d'être incapable de trouver avec tout ce que je suis des solutions. Quoi.
Alors ils l'ont traversé ce conflit. Est-ce que il y a eu une happy end ou pas?
Oui, ils y sont arrivés. Alors pas complètement happy. Ça veut dire qu'ils ont su d'abord apaiser ce qu'ils avaient en eux et ensuite ils ont réussi à pouvoir continuer à travailler dans la même société, dans le même service, ce qui était déjà pas mal.
Allez, on va faire une première pause et puis après on va se plonger dans deux outils que vous allez nous développer, la méthode Thomas Killman et l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale. Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Mieux vivre son job, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme sous-titre aujourd'hui la gestion des conflits, en l'occurrence professionnels. Mais on peut imaginer que ça peut donner des idées aussi pour la vie personnelle. Et nous sommes avec Olivier Lasserre, qui est coach et formateur et facilitateur. Bah tiens, justement, vie pro, vie perso, vous m'avez suggéré en préparant l'émission, vous avez semble-t-il l'habitude de dire aux personnes que vous accompagnez, plutôt, qu'on peut parfois mettre un peu une cloison trop étanche entre l'un et l'autre et découvrir que dans la vie personnelle, on arrive plus à résoudre ce qu'on résout moins dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il faut déjà peut-être oser être plus unifié pour faire du chemin ?
Oui, vous avez parfaitement raison. On parle d'unité de la personne, hein, on parle de l'unité du couple. Et ben, l'unité de la personne, c'est important de la vivre au niveau professionnel. Et tous ceux qui ont travaillé un peu au développement personnel d'eux-mêmes savent ce que c'est. Ça parle de quoi lorsque j'ai, par exemple, le matin à la maison, une situation difficile, que je pars énervé, stressé, que j'arrive au bureau. Ce stress est toujours là, c'est de boule au ventre. Alors, pourquoi séparer ? Elle est là, cette énergie. Et dans la réciproque, je rentre du boulot fatigué, énervé, quelle va être ma réaction au niveau familial ? Donc ça veut dire quoi ? On aura beau essayer de séparer ces deux champs, ils font partie de nous-mêmes.
Mais vous laissiez aussi entendre que parfois on peut avoir des comportements assez différents dans la vie personnelle ou la vie professionnelle, bref, être un peu, pas être toujours la même personne ou gérer par exemple les conflits différemment ?
Eh bien il semblerait, et c'est justement ce que l'outil que l'on va voir, cet outil, cette méthode Thomas Killman, le démontre de façon quasi systématique, c'est-à-dire qu'il y a un questionnaire qui permet aux personnes de lister leurs habitudes en situation conflictuelle au niveau professionnel. Et ils vont donc se faire une sorte de profil de comportement habituel. Et quelques semaines après, je leur propose de refaire ce test, mais en se mettant dans un contexte familial, cette fois-ci, ou privé. En tout cas, pas le contexte professionnel.
Et les résultats sont différents.
Et les résultats sont sensiblement différents. Et donc, ce qui nous permet de dire, en tout cas de conclure, que tiens, mais c'est étonnant. Et là, on pose la question aux personnes, à dire « Oui, mais ça, je sais le faire à la maison, mais je ne me le permets pas au boulot. » « Ah oui, et pourquoi ?» Et là, peut commencer une séance de coaching, bien sûr.
Alors, vous avez cité le nom donc, de la méthode qu'on va parcourir, la méthode Thomas Killman. Vous pouvez commencer peut-être par la présenter. Je ne sais pas d'où elle vient, on peut peut-être aller vite. Est-elle connue, peut-être ? Et en tout cas, parler donc des ces fameux 5 comportements qui seraient nos comportements habituels pour faire face aux conflits, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. C'est un outil qui nous vient des États-Unis, il y a au moins, quelques dizaines d'années, qui est importé en France par ceux qui distribuent aussi un autre outil connu de connaissance de soi, qui s'appelle le MBTI, qui est une grille de lecture de la personnalité. Et Thomas Killman, l'intérêt de cette approche, c'est qu'elle est simple, elle est facile d'accès, et elle permet à tout un chacun de l'utiliser pour soi-même, pour évoluer dans sa gestion des conflits. Cette méthode, elle permet tout d'abord de voir qu'il y a généralement 5 comportements habituels que l'on peut avoir.
Comme 5 flèches dans un carquois, vous dites.
Oui, tout à fait. Et donc, lors de formation, lors de coaching, l'intérêt pour ces personnes, c'est de prendre conscience que dans leur carquois, ils n'ont peut-être qu'une ou 2 flèches. Alors qu'il pourrait en avoir 5. C'est-à-dire, selon, on va dire, la distance de la cible ou autre, c'est peut-être une autre flèche qui serait peut-être plus pertinente par rapport à la situation.
Alors, ces 5 flèches, quelles sont-elles ?
Alors, pour vous faire découvrir ces flèches, ces 5 flèches, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du combat des chefs. Alors, pas comme dans Astérix et Obélix, mais le combat des chefs cuisiniers. Imaginez, vous avez 2 chefs pâtissiers qui doivent réaliser un dessert avec une même orange. Et il n'y a que cette orange-là pour chacun faire sa pâtisserie. Et donc, ils sont confrontés à une situation conflictuelle puisqu'ils ont 2 intérêts divergents. Chacun doit faire son dessert et il va falloir en faire quelque chose de cette orange au milieu. Et donc, la première réaction, c'est l'un des 2 pâtissiers prend l'orange pour partir faire son dessert. Et l'autre se retrouve sans l'orange, il dit qu'est-ce que je vais faire ? Et donc ce qu'il a fait, le premier, il a rivalisé, c'est-à-dire qu'il a visé son intérêt propre, son objectif propre, faire son propre gâteau, et pas du tout tenir compte de l'intérêt de l'autre.
Donc première flèche, rivaliser.
La deuxième, c'est cette même personne, au lieu de la prendre, va dire à l'autre, je te donne l'orange, la prendre et dire, tiens, vas-y, je sais que pour toi, ce dessert est important parce que, alors il y a tout un tas de raisons contextuelles, ou en tout cas, il peut dire, j'ai bien conscience que l'enjeu pour toi est important, moi, je peux faire autre chose peut-être, en tout cas, c'est moins d'importance pour toi. Donc, je te donne l'orange, et là, il va céder. C'est donc la deuxième possibilité.
On se retrouve tous parfois dans l'une ou l'autre. Enfin, en tout cas, on va continuer.
Voilà.
Troisième flèche.
Troisième, ils se regardent chacun, ils ne savent pas trop quoi faire. Et puis, il y en a un qui dit, et si on coupait l'orange en deux? Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est chacun repartir avec un morceau de l'orange. Maintenant, leur gâteau sera moins bon que ce qui était prévu parce qu'on n'est pas au niveau de l'objectif à atteindre. Et là, c'est chercher un compromis. Donc là, c'est le troisième. Les deux dernières, c'est tout d'abord, les deux personnes sont face à l'orange, et puis en fait, ils ne se parlent pas, et chacun laisse l'orange, fait comme s'il n'y avait pas d'orange. Et chacun va faire un dessert qui ne sera pas à l'orange, quel qu'il soit. Et là, c'est éviter le conflit. C'est la quatrième voie. Et la cinquième voie qu'on peut explorer avec nos deux pâtissiers, c'est qu'il y en a un qui va commencer à discuter.
Qui semble être la flèche idéale entre nous, non ? La flèche magique, à vous. Enfin, on va la découvrir.
Ça dépend. Mais qui peut être pas mal. Qui peut être pas mal, en effet. C'est de dire, écoute, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu veux faire avec cette orange. Et ils commencent à discuter tous les deux, à écouter le besoin de l'autre, à écouter, voilà, quel est son contexte, quelle est sa situation. Et il peut émerger de cette discussion, en fait, un chemin qui peut être intéressant. Alors, dans ce cas-là, on peut trouver quelque chose qui fonctionne bien, qui est, par exemple, il y en a un qui va dire, moi, j'ai besoin du jus de l'orange pour pouvoir avoir la saveur dans mon dessert. Et l'autre, il dit, écoute, ça tombe bien, en fait. Moi, j'avais besoin des zestes, uniquement donc de la peau de l'orange. Et on se rend compte là que rien qu'en prenant le temps de s'écouter, de discuter... Alors là, dans un cadre, on va dire, idyllique, qui marche super bien, on va pouvoir collaborer ensemble. Donc, être dans du gagnant-gagnant. C'est la cinquième possibilité.
Alors, cinq flèches, rivaliser, céder, éviter, chercher un compromis, collaborer. Vous vouliez en mettre l'accent donc, sur une pour nous aider après à comprendre comment on peut faire du chemin. Alors, imaginons, donc, on est en situation de conflit, on fait appel à vous, on comprend qu'on a cinq flèches, qu'on aurait peut-être chacun aussi une manière, quoi, quelques tropismes, hein, c'est ça. Souvent, on en utilise
vous
surtout
dites.
L'une ou l'autre. Hein.
Oui, tout à fait.
Et alors, on a pris conscience qu'on avait tendance peut-être donc surtout à céder, avantages et inconvénients, et comment est-ce qu'on fait du chemin après alors ?
Alors, les personnes qui ont l'habitude de céder, c'est des personnes qui sont enclines à vouloir faire plaisir, en fait. Des personnes pour qui la qualité de la relation à l'autre est primordiale. Et pour eux, quel que soit l'objectif personnel, au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas supérieur au fait de ne plus être en relation conviviale, en relation de s'apprécier. C'est des personnes qui ont du mal à dire non, d'accord ? Et même dans des contextes professionnels où il y a de l'enjeu pour eux par rapport à leurs objectifs à atteindre, ils préfèrent céder. C'est naturel, ça vient, ils disent, alors ici, il y a une sorte de manipulation personnelle pour dire « oui, mais ce n'est pas si grave », etc. Donc, on l'observe, en fait, et ces gens-là sont en difficulté parce que, à force de céder, parfois, ça peut ne pas être adapté à la situation du tout.
Hein. Donc, on n'atteint pas forcément ses objectifs, mais ça renforce la reconnaissance positive et le lien de qualité, vous dites.
Ouais, c'est exactement ça.
Alors, une fois qu'on a pris conscience qu'on avait tendance à utiliser donc surtout une flèche sur cinq, comment est-ce qu'on avance ? Comment est-ce que vous aidez la personne à avancer, là ?
Alors, Dans nos métiers de coaching, vous l'avez dit au début, c'est aider les personnes à sortir de leur zone de confort. Mais comme on dit bien sa zone de confort, c'est là où on est bien, où on est confortable. Et aller dans l'inconnu, c'est pas facile. Donc notre rôle va être de mettre, on va dire, deux choses. C'est de la protection d'abord, pour dire à la personne, on va t'accompagner, on va te guider pour aller dans cette zone d'apprentissage. Et pas aller dans la zone de chaos, où on a peur d'aller, où on voit bien l'extrême, où on va pas y arriver, où ça peut mettre en danger les personnes. Donc on va mettre de la protection et on va les accompagner en mettant de la permission, oser des choses. Et ça va être plutôt une dynamique des petits pas. Donc ce qu'on va dire aux personnes, c'est au regard du CD, qui est la plus grande pratique par exemple que vous faites dans les situations conflictuelles, on va regarder les quatre autres qui sont dans leur champ de comportement. Et on va essayer de dire, ben voilà, si j'essaye d'un peu moins céder, qu'est-ce que je peux faire un peu plus ? D'accord ? Et ça va être dans une démarche de petits pas, en essayant de comprendre quels sont les contextes, les situations dans lesquelles je peux oser, on va dire, affirmer, être plus assertif vis-à-vis de mon intérêt, de mon objectif, je vais pouvoir le mettre en place.
Donc apprendre à utiliser tout simplement d'autres... Vous faites quoi ? Des scènes types, et puis là, la personne se dit, vous lui dites, allez, là, tu vas rivaliser, ou là, tu vas collaborer, c'est ça ?
Alors, en individuel, on le fait, tout à fait. Maintenant, il faut le faire dans des situations pour eux où ça a du sens, c'est-à-dire avec des personnes ou dans des contextes où ils se sentent de le faire. Si on prend la situation extrême où ils ne se sentent pas du tout, c'est très compliqué parce que l'autre personne n'écoute jamais, veut toujours avoir raison, la personne avec laquelle on dit « mais oui, mais ça ne marchera jamais », eh ben on ne va pas progresser. Donc prenons les situations faciles à atteindre et atteignons-les.
Alors juste à ce stade de la présentation de cet outil, on peut se dire, Olivier Lasserre, que là, en fait, là, vous prenez une personne, vous l'aidez à se connaître, à savoir comment elle fait face au conflit. Mais est-ce que vous aidez en fait à résoudre les conflits ? Parce qu'en fait, il faut les deux personnes. Il faudrait presque à chaque fois réunir toute l'équipe ou les deux protagonistes, non ?
Alors, ça dépend des accompagnements que l'on fait. On peut faire des accompagnements d'équipe où là, en effet, on va aller jusqu'au bout. Donc d'abord, on va faire un travail la plupart du temps au préalable avec chacune des personnes concernées. Et après, en effet, une fois qu'eux-mêmes ont compris ce qui était en jeu pour eux, ils ont fait ce travail sur les émotions et sont prêts à écouter, on va dire, le monde de l'autre, hein, on pourra faire ce travail en réel. Sinon, en effet, lorsque c'est en formation, la plupart du temps, on va faire en sorte, on va donner des éléments de compréhension aux personnes, on va leur donner des éléments d'apport théorique et on va en effet les faire pratiquer au plus près de leur réalité ou bien dans des contextes totalement différents pour qu'ils goûtent justement de ces nouveaux comportements. Et après, ce sera à eux de mettre en œuvre, d'expérimenter. Il y a des formations qui sont sur la durée. On se voit donc à plusieurs mois, plusieurs séances d'intervalle où là, on peut revenir sur ce qu'on a fait. Ça a marché, ça n'a pas marché. C'est ce qu'on fait en coaching. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière séance ? Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en œuvre ? Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Et on retravaille dessus. On essaie de comprendre.
Alors, exemple. Citez-nous un exemple. Donc, vous avez utilisé cette méthode. Peut-être un exemple collectif, si possible, où voilà, vous l'avez présenté donc, à différentes personnes. Chacun fait son chemin. Et quel a été l'avant et l'après ?
Alors, je peux vous en faire deux coachings d'équipe. La première, donc un responsable d'une organisation me dit, voilà, j'ai deux équipes là, qui travaillent ensemble et qui auraient besoin en fait, de travailler sur le sens ensemble. Et donc, réunissez-les, travaillez-les. Donc, c'était le projet. Et donc, je rassemble donc les deux équipes concernées. Et en fait, il y avait du réel conflit lié à un vécu passé. Et je n'avais pas eu ce niveau de transparence lorsqu'on avait donné la mission. Donc là, on repart vraiment en arrière. C'est-à-dire que pendant la première réunion, très compliqué de mettre en œuvre. Alors moi-même, je n'avais pas questionné au préalable peut-être suffisamment pour comprendre. Donc là, il a fallu rétro-pédaler pour pouvoir retravailler individuellement, pour pouvoir refaire travailler les gens ensemble. Donc ça, c'était un échec, on va dire. Hein. Ça a mis de l'huile sur le feu parce que justement, il y avait cette notion émotionnelle qui n'avait pas été prise en compte au départ. En revanche, une autre équipe qui était en difficulté a accepté de travailler donc, chacun dans son coin.
Donc chacun, vous faites travailler chacun individuellement chacun sur individuellement. Ces cinq flèches, c'est ça ?
Voilà. Et puis une fois qu'ils ont travaillé individuellement, que l'aspect émotionnel a été géré, ou des fois il n'y a pas d'aspect émotionnel, donc c'est pas mal, ils vont pouvoir présenter, s'ils le sont d'accord, aux autres. Ils vont présenter aux autres, voilà moi mon mode de fonctionnement. Et chacun va découvrir que l'autre est différent. Et ça, c'est un cadeau à donner, parce que souvent, on n'imagine pas que les autres ne vont pas penser comme nous. Chacun fait le meilleur possible. Et moi, j'ai eu lors d'une formation, à la fin d'une formation de 3 jours, et on travaille beaucoup sur ces sujets, une personne qui m'a dit, ouais, cette formation, bon, En fait, il y a quand même un truc, un petit truc que je prends, c'est j'ai compris que les autres personnes étaient différentes de moi. Et ben, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux que cette personne pouvait avoir. C'était magnifique, cette prise de conscience.
Alors, en l'occurrence, d'apprendre à gérer les conflits, Olivier Lasserre, en fait, c'est quoi ? C'est de, donc, d'avoir reconnu, on va dire, son tropisme naturel, du coup, d'avoir un peu plus de lucidité sur soi-même, et puis, petit à petit, en fait, d'arriver à utiliser, en fonction des situations, tous ces types de... tous ces différents comportements qui permettent de traverser un conflit, parce qu'à vous entendre, quand même, on se dit que le mieux, c'est celui qui collabore, qui prend le temps d'écouter l'autre, on se met au milieu, balle au centre, et puis on essaie de voir ce qui est mieux pour chacun. Non, c'est...
Alors, dans l'absolu, vous avez raison. Dans la réalité, pas forcément. Le collaborer, chercher le gagnant d'un an, prend du temps. Parce que si on regarde la réalité objective des situations, il peut y avoir des objectifs qui ne sont pas du tout compatibles entre les différentes entités, personnes. Et donc, il va falloir réfléchir autrement, sortir du cadre pour inventer ensemble un nouveau chemin, une nouvelle solution. Et ça demande beaucoup d'énergie. Il y en a qui le font très bien. Simplement, ça prend du temps. Et il y a des situations d'urgence.
Oui, par exemple, vous prenez l'exemple du chef pâtissier ou des cuisiniers. En cuisine, en général, c'est...
Il y a de l'urgence.
Oui.
Donc, il y a de l'urgence. Donc, quand il y a de l'urgence, il faut décider vite. Et donc, quand on décide vite, qu'est-ce qu'on fait ? On a trois solutions. Soit on rivalise, soit on cède, soit on cherche un compromis. Selon nos habitudes, on va faire ça. Donc, on va voir ça. Ensuite, ce que l'on voit aussi, par exemple, c'est dans les personnes qui sont chefs de projet. Donc, ils doivent passer un certain nombre de jalons pour aller jusqu'à l'aboutissement, à livraison de leur projet. Pour eux, ce qui est important, c'est que tous les contributeurs... Travail contribue au fur et à mesure des livraisons à mettre en œuvre. Et donc, pour eux, ce qui est important, c'est qu'on livre. C'est qu'on livre à telle date, à telle heure. Et donc, comme c'est important de livrer, eux, ce qu'ils vont faire, c'est chercher un compromis de façon systématique. Parce qu'ils savent très bien que si je veux faire mieux avec des choses de plus grande qualité, bah, ça va demander plus de temps. Et je ne l'ai pas forcément. Et alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on fait faire ces questionnaires ou cet autodiagnostic au chef de projet, d'abord, on voit que chercher un compromis, c'est ce qui apparaît en premier comportement habituel, d'une part. Donc, on veut dire que c'est la fonction qui génère les habitudes, on va dire. Et ensuite, ce dont on aperçoit, c'est que ces personnes nous disent « Mais je ne comprends pas parce que pour moi, vous dites chercher un compromis, vous dites collaborer, mais c'est la même chose en fait ce que vous dites. » C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude d'opter pour chercher un compromis, ils ont perdu l'idée qu'on pouvait encore faire mieux en prenant du temps et satisfaire son objectif et à la fois avoir une relation de grande qualité pour écouter le besoin de l'autre et faire en sorte que les deux parties s'y retrouvent. Alors la clé de ça, c'est peut-être de dire est-ce que la relation de confiance est là avec votre interlocuteur, là, avec l'autre partie ? Si la relation de confiance se développe est là, c'est que certainement on est dans le collaborer. En revanche, si la relation de confiance n'est pas là, c'est que certainement on est dans du chercher un compromis.
Pour finir, le bon étalon pour se dire qu'on a fait un pas dans un conflit, c'est quoi ? C'est que justement on est appris à connaître chacun, à mieux communiquer, à défaut d'avoir retrouvé le... La paix, je sais pas, quand vous quittez une équipe, quels sont les quelques critères que vous avez en tête pour vous dire là, ça va mieux ?
Le premier critère, c'est que chacun sort de ses modes automatiques pour être plus lucide et mettre des choix en conscience. Passer, on va dire, des comportements inconscients habituels à des comportements que je choisis. Et je connais des chemins pour les choisir. Et peut-être que mes habitudes seront les bonnes par rapport à cette situation-là ou cette autre situation. Et peut-être que dans une autre situation, avec ce partenaire avec lequel je travaille, ben je vais essayer de faire autrement et je sais comment essayer d'y aller. Et rien que ça, c'est du beau boulot.
Méthode Thomas Killman, c'était donc la première méthode donc que vous vouliez nous présenter. On va faire une courte pause musicale et puis vous allez nous en présenter une autre. Cette fois, c'est une approche neurocognitive et comportementale. Beau programme pour apprendre à entrer encore plus dans ses pensées, ses émotions et ses comportements.
Présence à Salis du Salat, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Mieux vivre son job, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin sur la gestion des conflits. Et en l'occurrence, donc comme accompagnateur aujourd'hui, nous avons Olivier Lasserre qui est coach, formateur et facilitateur. On va donc se plonger dans un deuxième outil que vous nous proposez à propos de la gestion donc des conflits professionnels. C'est une approche cette fois et non pas une méthode. ANC, approche neurocognitive et comportementale. Je me disais, Olivier, que peut-être un certain nombre d'auditeurs se disent toutes ces méthodes, c'est un petit côté course à l'échalote. Pourquoi autant de méthodes? Qu'est-ce que vous répondriez à cet a priori?
Ah ben ils ont bien raison, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'on se pose la question, mais est-ce qu'on peut pas avoir des choses plus simples? Alors, je dirais justement beaucoup de techniques existent, d'approches, d'outils qui parlent de développement personnel, qui parlent de conscience de soi, qui sont très à la mode. Hein. L'idée, en fait, est de se dire comprendre l'humain, se comprendre soi, comprendre les autres dans un univers personnel ou professionnel. On se rend compte que c'est pas si simple, quels que soient nos métiers, quel que soit notre niveau d'éducation. Hein, dans toutes les situations, on va être confronté à la difficulté relationnelle, à se rendre compte que la motivation, elle est là ou elle n'est pas là. Et donc, l'idée, c'est de se comprendre. Et pour se comprendre, eh bien, il y a des gens qui réfléchissent et qui voient qu'il y a des méthodes qui marchent. Et donc, ils essayent de les modéliser. Alors après, il faut arriver à les rendre accessibles à chacun. Et ce souci de vulgarisation, c'est ce qu'a fait justement l'ANC. Et c'est une approche qui existe depuis. Alors, elle a commencé en 1987 par les travaux de Jacques Fradin, qui est un laboratoire de psychologie et de neurosciences. Donc, le travail qui a été fait sur la compréhension du fonctionnement de notre cerveau est à la base de ces approches-là. Ces approches-là sont...
Alors, il y a un triptyque, peut-être. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire. Pensée, émotion, comportement.
Oui. L'idée est de se dire, on se rend compte que trois choses sont intimement liées. Et on se rend compte que c'est ça. Nos pensées, nos croyances, nos représentations du monde, d'une part, avec les émotions que l'on a lorsqu'on est en train d'avoir ces pensées, et les attitudes et les actions, donc les comportements que l'on a. Donc toutes les études qui ont été faites nous permettent, et c'est l'un des postulats, on va dire, de l'ANC, de dire que quand tout va bien, j'ai une pensée qui est fluide, j'ai des émotions sereines, et je vais avoir des comportements, des actions qui sont adaptées, qui sont ajustées à la situation. En revanche, lorsque je commence à avoir, par exemple, une émotion négative, on peut l'appeler comme ça, en parallèle, va se développer en moi certainement des pensées qui sont moins claires, qui sont plus floues, qui sont pas, on va dire, aussi, on va dire, intelligentes, fines, faites de nuances. Et également, je vais avoir des comportements qui ne seront pas adaptés à la situation. Et donc, de comprendre que ce triptyque est lié, c'est une découverte fantastique. Ça veut dire que moi je vois des personnes que j'accompagne, des coachés, qui m'expliquent une situation stressante vécue actuellement, où il y a du conflit, et je leur dessine ce triangle au mur sur un tableau. Je leur dis, ben voilà, il y a le triangle des pensées, des émotions et des comportements. Et je leur dis, ben, quand vous vivez cette situation, c'est quoi ce que vous ressentez? Ah, mais oui, mais là, je sens un sentiment de frustration, de colère, de non-respect, de l'engagement, des valeurs. Ok, d'accord. Et vous pensez quoi? Ben, alors là, elle pense toutes les pensées négatives, de c'est scandaleux, de on peut pas y arriver. Et c'est quoi vos comportements? Ben, j'ai envie de... Je vois que je suis dans un comportement plutôt agressif, où je parle fort, où je montre mon désaccord, où je m'en vais. Il y a des choses comme ça. Hein, il y a des comportements spécifiques. Et donc, quand les personnes prennent conscience du lien entre ces trois, ils disent « Waouh, c'est génial !» Parce qu'elles sont en train d'exactement réaliser ce qu'il faut, c'est-à-dire s'observer soi-même.
Alors, il y en aurait trois grands comportements, fuite, lutte, inhibition, en tout cas selon cette méthodologie. On va choisir la lutte. Alors, vous avez une personne donc, qui vient vous voir, qui a une situation de conflit, qui a plutôt donc, le profil, on va dire, lutte. À quoi ça ressemble, ce profil? Et puis, comment, une fois de plus, vous l'aidez à faire du chemin?
J'aimerais introduire, ça sort pas de nulle part, hein, ces trois stress, hein, de lutte, de fuite et d'inhibition, on va dire. C'est lié en fait à la réalité de l'humain, c'est-à-dire nous en tant que mammifères, hein, à la base, si on regarde ce que font les animaux en situation de stress, ils stressent parce qu'il y a un danger, c'est pour la survie, d'accord ? Et ils stressent, et donc face à un danger, les animaux, ils ont trois solutions. Le premier, c'est la fuite. Et c'est instinctif, cette façon d'essayer de survivre. C'est la fuite. Et ensuite, si on voit que la fuite ne marche pas...
Si on reste dans la savane, là, c'est les zèbres qui courent quand le lion arrive.
Ça. Voilà. Et quand le lion se rapproche vraiment, eh ben, il faut faire face. Il faut essayer de leur donner des coups de ruade. D'accord. Et si ça ne marche pas, on a une troisième stratégie de survie. C'est faire le mort. Faire le mort parce que certains animaux se sont rendus compte que des prédateurs n'attaquaient pas les bêtes mortes. D'accord. Et donc, ces trois réflexes qu'on a au fond de nous, lorsque l'on stresse, on est là-dedans. Et donc, c'est des réflexes que l'on vit aujourd'hui, lorsqu'on est stressé, mais simplement, pas seulement lorsqu'on est en problématique de survie. Sauf que notre cerveau, on va dire, ancestral, qu'on appelle le reptilien, qui nous envoie, on va dire, ses commandes, réagit et nous fait stresser, en fait, pour nous permettre de faire face à une situation. Sauf qu'aujourd'hui, ces situations-là, c'est pas des situations qui mettent notre survie en danger, mais c'est des situations du quotidien. Et en fait, ces situations de stress, que dit l'ANC, c'est en fait notre cerveau, notre néocortex, qui envoie ce stress, en fait, à notre corps pour lui dire attention.
Et qui prend le dessus.
Voilà, parce que t'es dans un mode automatique et je t'envoie du stress pour te dire que c'est pas le bon mode. Il faut que tu changes de mode automatique.
Alors, la lutte, c'est donc l'émotion, c'est donc la colère. On cherche à dominer. Il y a aussi donc, on va dire, un diagnostic physique, hein, et comportemental. Visage parfois empourpré, parfois pâle, front en avant, poings serrés, mains menaçantes, regard fixe et frontal, tension musculaire des mâchoires, du cou et des épaules. Il n'y a pas besoin de se balader avec un miroir peut-être pour s'y reconnaître. Une fois qu'on a identifié qu'on avait tendance à développer ce type de comportement, qu'est-ce que vous dites à la personne?
Alors, déjà, bravo d'avoir conscientisé ce que je suis en train de vivre. Donc l'idée, à partir du moment où on conscientise ce que l'on a vu, ça veut dire reconnaître ce vécu de stress. Alors souvent le faire à chaud, c'est difficile, hein. Donc il faut plutôt se dire, au démarrage, lorsqu'on est dans un processus d'apprentissage, peut-être en fin de journée, une fois qu'on a vécu la situation, tiens, je prends un quart d'heure en réunion avec moi-même pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tiens, je me rends compte qu'en effet...
C'est pas mal la réunion avec soi-même, ça.
Ah oui, ah ça, oui. C'est un grand classique.
Vous la mettez dans votre agenda, la réunion avec vous-même ?
Ah, mais elle est indispensable. Elle est indispensable. Quotidiennement, un quart d'heure pour faire le point de cette journée et préparer le lendemain. Vous savez, il y a aussi ces aspects d'organisation. Il y a des gens qui se réveillent la nuit à 4 heures du matin avec les problèmes à résoudre le lendemain.
Mieux vaut prévoir une réunion avant de se coucher, dans ces cas-là, c'est vrai.
C'est ça.
Allez, on continue sur la lutte.
Alors, donc, l'idée, c'est de reconnaître tout d'abord ce vécu du stress. Donc, identifier ce stress en disant, bah oui, ce que vous avez partagé, Emmanuel, c'est en effet les symptômes clairs de « je suis dans un stress de lutte ». Ensuite, c'est intéressant d'essayer de se dire, mais il est à quel niveau ? On peut se mettre chacun une échelle de 1 à 10 en disant 1, bah c'est un petit stress, et 10, c'est un très très gros stress, quoi. Donc, essayer d'évaluer le niveau de stress, bah déjà, c'est important de faire ça. Et ensuite, se poser un certain nombre de questions, donc il y a des méthodes, hein, questions, dire, bah voilà, mais qu'est-ce qui est touché en moi ? Qu'est-ce qui, lorsque j'ai ce stress-là dans ces situations-là, qu'est-ce qui est touché en moi ? Souvent, ce qui est touché en moi, c'est des valeurs profondes, c'est des besoins importants, un sentiment d'injustice, on a l'impression qu'on est pris pour un con, hein. C'est pour ça qu'on se met en colère. Bon, on me dit ça, mais on n'a pas à me le dire, c'est pas possible, on sait bien que je le sais, on l'a dit 10 fois, on le répète, etc. Donc, qu'est-ce qui est touché en moi ? Donc, il peut y avoir voilà, des questionnements qui permettent d'identifier la source, hein.
À vous entendre, il y a aussi des attitudes aggravantes et au contraire, des manières d'arriver à dépasser ces situations.
Alors, tout à fait, tout à fait.
Je vois le temps qui passe, alors je vous pousse. Donc, la situation aggravante pour la lutte, si j'ai bien compris, c'est donc...
Oui, allez-y.
Bah, d'avoir quelqu'un qui, au contraire, de chercher à dominer la personne alors qu'elle est déjà en situation de lutte, c'est ça ?
C'est ça, en fait.
Calmez-vous, utilisez les injonctifs, toujours, jamais, être imprécis.
C'est ça, tout à fait. Le risque quand quelqu'un est en lutte, c'est de vouloir, voulant l'aider, en fait, à l'énerver encore plus, quoi. Donc, l'idée, il y a des situations grasantes à éviter quand on voit une autre personne en lutte. C'est en effet, le risque, c'est lorsqu'on est en train de le remettre en question, de lui faire des reproches, de l'interrompre, de lui dire calmez-vous, etc. Ça ne va pas l'aider du tout. Donc être attentif à ne pas exercer soit sur soi, soit sur les autres, c'est signe aggravant, en effet.
La solution, en l'occurrence, du coup, là pour la même situation, quelle est-elle ?
Eh bien, au contraire, lorsque l'on est avec quelqu'un qui est dans un stress de lutte, la clé, elle est de l'écouter. Elle est de l'écouter, de lui dire qu'il a certainement raison. Parce que dans son point de vue, dans sa vision du monde, ce qu'il exprime a du sens. Et donc, lui permettre de se calmer, parce que lui-même, on voit qu'il n'a pas une opposition, mais qu'on écoute ses arguments qui font sens pour lui. Donc ça, c'est la clé de l'écouter, de lui permettre de s'exprimer, et de permettre, se calmer. Donc, de ce que je vous disais. C'est les grandes lignes, on va dire.
Donc, apprendre à faire ça, on va dire, seul, à deux et en équipe. Olivier Lasserre, dernière question. Le temps, maintenant, est compté. Il faut chacun devenir, en fait, des espèces de... Parce que là, pour un manager, c'est quand même dur. Faut devenir une espèce de Mozart émotionnel, non ? Connaître ces trois postures, chaque fois, savoir comment, quoi éviter ou comment réagir. Il faut quoi ? Il faut 3 ans de coaching pour arriver à maîtriser cette table de multiplication de l'ANC au moins ?
Non, il faut de l'envie. Il faut de l'envie de se comprendre. Il faut de l'envie de mieux communiquer, de mieux travailler avec les autres. Et puis prendre le temps, prendre un peu de temps régulièrement, simplement. Et c'est le chemin. On peut lire des bouquins, on peut suivre des formations, on peut regarder des vidéos sur YouTube, on peut faire des MOOC. Tout ça, c'est possible. Chacun, on apprend avec notre façon d'être. Donc l'idée, c'est d'avoir envie. C'est d'avoir envie de se transformer pour mieux travailler, pour mieux vivre, pour mieux être avec les autres un bon professionnel. Et c'est en travaillant sur soi qu'on y arrive. Et tous ceux qui sont dans ce chemin-là, ils voient beaucoup de plaisir, en fait. Donc, c'est de retrouver du plaisir, de retrouver de la légèreté, de la curiosité. C'est le chemin de faire cette bascule pour utiliser notre cerveau adaptatif.
Eh ben, bravo et merci à la girafe verte que vous êtes. Merci Olivier Lasserre pour cette présentation donc de ces outils. On peut les reciter, hein. Méthode Thomas Killman et l'ANC. L'ANC, redites-moi, c'est l'approche neurocognitive et comportementale.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.